I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Mais je comprends pas, en fait. C'est comme si mon corps voulait pas et ma tête, mon mental me dit fais-le. Et du coup, je me dis, mais c'est super bizarre, en fait. J'ai envie de faire un truc, j'ai l'impression que... Et en fait, mon corps veut pas y aller. Et là, je me dis, mais c'est vraiment handicapant, c'est quand même un problème. Parce que du coup, ma tête me dit, fais ça. Parce que gagne de l'argent, fais comme ci, fais comme ça, en mode plan d'action. Et mon corps veut plus. Et là, c'est un vrai problème. Parce que du coup, t'es complètement tétanisé, tu peux plus avancer.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Léona Rose, artiste à l'univers coloré dont vous avez sûrement aperçu le travail dans certains hôtels ou sur les réseaux sociaux, où elle cumule plus de 250 000 abonnés. Si la vie de Léona semble féerique, aller peindre des fresques dans des hôtels luxueux mexicains ou dans des orphelinats à Bali, ou encore participer à des événements artistiques parisiens sélects, Léona a pourtant eu un parcours très sinueux. Petite, elle dessine, mais elle range les crayons pour faire une école de commerce, puis enchaîne des jobs dans le monde pharmaceutique et de l'immobilier. Des secteurs qui sont à l'opposé de ce qui l'anime. Et très vite, elle ressent un mal-être qui va s'accentuer pour se transformer en crise d'angoisse à répétition. Elle raconte ici ce parcours difficile, puis le déclic qui va l'amener doucement à renouer avec sa créativité. Elle raconte aussi ses galères indépendantes, les chantiers cauchemars, l'insécurité financière, mais aussi les chouettes surprises qui arrivent toujours quand on s'y attend le moins. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Léona devant ses fresques murales. Belle écoute!
Eh ben, merci beaucoup pour ton temps, Léona. Ravie que tu puisses mettre ta voix sur ce podcast et apporter aussi ton témoignage. Avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors, moi, je suis Léona, j'ai 36 ans, je sais même plus. je suis artiste peintre et mon travail se décline de toiles sur des installations également, mais aussi tout ce qui est davantage graphique pour des prints, différents usages en fait, que ce soit pour des vêtements, ouais, tout type de support.
Ouais, et c'est hyper coloré, alors on le verra plutôt sur les réseaux qu'à l'écoute, mais c'est hyper coloré ce que tu fais, c'est beaucoup de fresques.
Ouais.
Pour, en fait, effectivement, plein de lieux, c'est pas uniquement des tableaux, mais tu fais aussi beaucoup de fresques pour des hôtels, pour des...
Ouais, dans des lieux inspirants que j'aime bien. J'adore faire un petit peu matcher mon univers avec le travail d'un architecte. Comme ça, les deux se répondent. Je trouve que c'est très intéressant.
Et donc, si tu es sur le podcast, c'est évidemment que tu n'as pas toujours fait ça.
Non, c'est ça exactement.
Tu as commencé par quelque chose de complètement différent. Si on revient un peu sur ton enfance, où est-ce que tu grandis, toi? Comment elle se passe, ton enfance? Et quand est-ce que tu as peut-être un premier déclic de ce truc un peu arty?
Alors, mon enfance, moi, j'ai grandi dans un petit village, dans les Alpes, dans le sud de la France. Et comment elle se passe? En fait, j'ai toujours dessiné, moi, étant petite. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre J'achetais des bandes dessinées Marsupilami, où je les louais à la bibliothèque. Et je décalquais un petit peu au début. Et après, je m'amusais vraiment à recopier à l'identique les bandes dessinées des Marsupilami. Donc voilà, en fait, j'étais dans ma chambre seule. J'avais vraiment besoin de m'isoler, d'être dans mon cocon, dans ma bulle. Je faisais mes petits découpages. J'avais déjà, en fait, en quelque sorte, je me rends compte, un mood board en face de moi, parce que j'avais plein d'images, de photos qui me plaisaient. Et j'avais besoin, tout autour de mon bureau, en fait, d'avoir tout mon univers visuel, comme pour être dans une bulle et être enveloppée. Voilà, donc en fait, je faisais mes petits tests. Je dessinais, j'ai appris un peu toute seule. Et les Marsupilami, c'était super compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de détails. Il y a les regards, c'est que des personnages, il y en a beaucoup. Et voilà, j'ai atteint mon objectif quand j'ai réussi à dessiner le nid des Marsupilami. C'est ce que je dis souvent, parce qu'il est super dur, le nid. Il y a toute la famille, il y a le père, la mère et les trois petits. Et toute la structure du nid. Donc voilà, quand je suis arrivée à faire le nid, j'étais super contente.
Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, tu commences déjà très tôt à dessiner. Enfin, c'est un truc qui est quand même hyper spontané et que tu fais dès l'enfance, quoi.
Ouais, disons que même quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans, je voulais les post-it de mes parents à côté du téléphone. Et je faisais plein de petits bonhommes, bâtons, des dessins, des soleils déjà. Et ma mère en pouvait plus parce qu'en fait, quand elle voulait prendre des notes, quand elle passait un coup de fil, il n'y avait plus de post-it parce que j'avais tout pris et je faisais ça sur des feuilles volantes. Et il y en avait partout.
Et attends, parce que tes parents, par contre, ils sont pas artistes ou ils sont un peu quand même dans ce milieu-là?
Alors, pas du tout. Mais ma mère a toujours dessiné, peint. Mais elle en a pas fait sa profession forcément, c'était plus un hobby.
Ok, ouais, donc on te pousse pas forcément dans cette voie.
Non, parce qu'en fait le chemin est pas du tout tracé et qu'on voit pas comment ça pourrait être un vrai métier. Comment est-ce que je pourrais me rémunérer hors d'un chemin classique puisque personne ne connaît ce chemin dans ma famille.
Okay.
Donc pourquoi pas, mais en gros tout est à faire et comment en fait. Pourquoi pas, mais c'est tout.
Et quand tu grandis, du coup, tu continues à dessiner?
Ouais.
Non,
pas du tout. Non, non. En fait, je... Donc, arrivé à faire le nid des Marsupilami,
ouais.
Je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, j'atteins mon objectif de vie. Donc, je vais... c'est bon. C'est bon, je peux m'arrêter là. Et en fait, après, bah, j'ai le lycée qui arrive. Et le lycée, ben, pareil, en fait, c'est un peu horrible. T'as des cours de 8h à 18h. Tu reçois toute la journée des infos. Et pendant tout ton temps libre, tu travailles. Donc, en termes de pédagogie, ça m'incitait pas du tout à être créative. Au contraire, en fait, surtout avec le système des notes qui vient te faire peur, genre, attention, si t'as mal révisé, tu vas être en dessous la barre des 10. Donc, bon, j'étais bonne élève, mais du coup, t'es toujours dans cette espèce de petit challenge, en fait, et t'as pas vraiment le choix d'être bon dans une matière et un peu moins dans l'autre, un petit peu avec le système des coef. Mais sinon, en fait, t'es obligé d'être égal dans tout, alors qu'en fait, c'est faux. Déjà, d'une journée sur l'autre, t'es pas dans le même mood, t'as peut-être des matières de prédilection, mais en fait, du coup, ça te pousse à avoir un niveau global sur tout, et ça te pousse pas du tout, au contraire, à affirmer ta différence, puisque t'es censé avoir un niveau moyen plus vraiment partout. Donc j'avoue que j'ai complètement arrêté, parce que j'avais plus le temps. Ça m'a coupé toute créativité, parce qu'en fait, j'étais absorbée dans le truc, et j'avais envie d'avoir des bonnes notes, d'avoir mon bac, d'avoir une mention, parce qu'on te dit, bah, toujours pareil en fait, tu veux avoir ton bac, et pourquoi tu veux avoir ton bac le mieux possible? Parce que en fait, le mieux possible va dépendre dans quelles écoles tu vas être accepté. Ouais. Et donc c'est un espèce de cercle un peu vicieux, alors qu'en fait tu sais pas du tout ce que tu veux faire, tu connais pas du tout ta différence avec ce système, et donc évidemment le dessin c'était même pas envisagé en fait. Donc non, en fait j'ai complètement arrêté, et après du coup tu perds un peu l'habitude d'affirmer un peu cette différence, de créer un peu ton univers. Et en fait, après, donc, bah, c'est les études qui commencent. Donc là, pareil, système de concours. Moi, j'ai fait une école de commerce, tu vois.
Oui, parce que, attends, c'est quand même fou. Ça veut dire que tu as quand même cette fibre artistique hyper forte et finalement, tu fais quand même une école de commerce.
Ouais, mais en fait, tout est fait pour que, finalement, par le système des bonnes notes, moi, j'ai un peu la chance et la malchance d'avoir été bonne élève. C'est tes bonnes élèves. Vas-y, continue à fond dans le parcours scolaire. Te pose pas de questions. Donne tout. Donc en fait, t'excelles. T'as des super notes. Et en fait, ça te pousse pas à t'interroger sur toi. Donc, bah, du coup, école de commerce, concours, j'ai eu celle que je voulais aller à Marseille. Et là, bah, pareil. Donc là, après école de commerce, le rythme, il est quand même beaucoup moins dense. Mais après, c'est plus ce qui était intéressant en école de commerce, c'était les travaux de groupe, le fait d'interagir avec des groupes différents à chaque fois selon les matières, te positionner dans une équipe, etc. Ça, c'est vraiment bien et j'aurais pas pu l'apprendre autrement que là-bas. Mais disons que pareil, en fait, si quand même ça te pousse un peu à être proactif, à t'autonomiser, notamment parce que tu as des gestions de projets, tu as des simulations de projets d'entreprise et tout, ça je pense que vraiment ça m'a aidé pour ce que je fais aujourd'hui. Mais au-delà de ça, t'es toujours un peu livré à toi-même. Le discours, c'est vous allez sortir de cette école, vous allez passer manager avec un salaire d'environ 3 000, 3 500 euros. Voilà, en fait, vous êtes les leaders de demain. Très bien. Donc, du coup, moi qui étais très scolaire, que j'avais des super notes, je me suis dit, bah, je vais sortir de là, donc c'est ce qui va se passer. Et en fait, grosse déconvenue. Donc, du coup, bah, toujours pendant tout ce temps-là, j'ai abandonné ma partie créative, mes collages, mes découpages et mes dessins, parce qu'on m'a jamais dit que j'allais affirmer ma différence comme ça. Non, en fait, on m'a dit, voilà, les outils qu'on te donne en école de commerce, les outils, c'est du marketing, de la com, vendre des produits, vendre des... Non, ils n'envisagent pas trop tout ce qui est prestation de service ou autre. En école de commerce, c'est très pragmatique. T'es dans des gros groupes, dans des grosses boîtes, t'as une place dans l'échelon, et... On te parle pas de créativité, en fait. Du coup, finalement, c'est ouvert, mais sans l'être, quoi. C'est pour des jobs classiques, chez des Nestlé, des L'Oréal, dans des banques. Donc, pour les mecs qui veulent être traders ou dans la finance, c'est absolument parfait, parce qu'ils prennent des spécialités et ils ont tous les outils pour mener à bien ce genre de carrière, en fait. Mais quand t'es un peu à l'ouest, que tu sais pas trop, finalement, t'es là, bah, je vais prendre toutes les matières de com, toutes les matières de marketing qui s'apparentent un peu à de la créativité. Mais finalement, je ne sais pas qu'en faire derrière. En fait, c'est bien beau de vouloir faire un job où tu parles plusieurs langues, etc. Mais si tu ne sais pas quoi faire... Moi, j'étais là, j'adore l'espagnol, l'anglais, j'adore voyager. Super. Et une fois qu'on a dit ça, je vais bosser dans le tourisme. Non, en fait, le raccourci, il est... J'ai plein de gens autour de moi, j'avais plein de copines, c'est... Bah, j'adore les langues et tout, je vais bosser dans le tourisme. Bah, pas forcément. En fait, ça ne te pousse pas à aller chercher en toi ce qui peut être différent ou autre.
Ouais.
C'est toujours des choses. Ben voilà, c'est... tu vas bosser dans le tourisme, t'es créatif, ben tu vas faire du marketing ou de la com. Mais du coup, dans quoi ? Dans un gros groupe. Donc, on te dit pas c'est quoi ta spécificité ? Est-ce que tu pourrais pas devenir DA ? Est-ce que tu pourrais pas monter ton agence ? Comment ? Est-ce que t'as une nouvelle vision à apporter ? Mais du coup, ça, c'est du développement personnel, des choses comme ça. Et c'est pas du tout le cas. C'est plus, ça te prépare un petit peu à rentrer dans des gros groupes.
Ouais, t'as pas du tout ce travail introspectif, je suis d'accord.
Non.
Si tu fais pas toi-même en autonomie.
Et du coup, t'as un salaire qui valide ce positionnement, mais du coup, évidemment, si t'es freelance, mais c'est un gros fail, parce qu'en gros, évidemment, que tu peux pas te verser ça dès le départ. Donc finalement, tout est fait pour t'amener à ce type de poste, avec une hiérarchie, et tu intègres directement une place dans cette hiérarchie. Donc en gros, c'est qui va m'accepter, dans quel système je vais aller m'insérer. En fait, c'est plus ça, plutôt que de toi créer ton système et ton propre monde, quoi.
Et du coup, toi, quand tu sors de cette école, tu intègres un système.
Direct. Bah oui, oui. Et donc, en fait, bah, comme on m'a dit, moi, c'est les chiffres, la performance et tout, bah, je commence à passer des entretiens. Je les ai tous parce que j'avais appris comment les passer. J'avais fait des RH aussi pendant mon parcours. Donc, en fait, ça, c'est un peu un jeu, parce que c'est même pas spontané, parce que je savais comment répondre aux entretiens et comment les avoir finalement. Donc, en fait, c'est parce que j'en avais fait passer. Donc, c'est un peu de la manipulation quelque part. Et encore une fois, ça te pousse pas à être celle que tu dois être. Juste, moi, on me dit cocher les cases, ok, je sais faire, donnez-moi les cases, je vais les remplir, quoi. Mmh. Et finalement, je me retrouve dans un taf qui me convient absolument pas.
Et tu commences par quoi, du coup ?
Alors, moi, j'ai été au début, j'ai été ingénieur commercial dans une boîte de pharmaceutique. Et je me suis dit, bah super, on m'a dit un salaire à 80K par an, franchement, très bon début, bravo, quoi. Félicitations, madame. En plus, j'avais un emprunt d'école de commerce à rembourser. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je commence, j'ai pas le choix. Une école de commerce, c'est 21 000 euros. Donc, en fait, t'as l'emprunt qui commence à tomber, donc il faut que tu travailles, quoi.
Ouais, 21 000 euros encore, t'es gentil, hein. Parce qu'aujourd'hui,
ouais, voilà, du
ça
coup,
augmente chaque année. Hein.
Pragmatiquement, ça te fait des mensualités de 400-500 euros par mois à rembourser. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'était mon cas. Plus ton loyer, qui est d'environ autant. Donc, il y a déjà 1 000 euros. Donc, être au SMIC, c'est pas une option, quoi. Du coup, t'es là, bon, d'accord, ça commence bien. Donc, il va falloir que je me bouge. Donc, tu as déjà cette espèce de petite pression. Après les notes, maintenant, tu as ça. On ne t'avait pas dit ça, en fait, parce que tu t'amusais un peu à l'école. Et là, tout à coup, tu es là. Ah ouais, mince, en fait, il faut vraiment que je me prenne en main. Et donc, ingénieur commercial. Et là, en fait, ça se passe super mal. En fait, ça ne me plaît pas du tout. Je me dis, mais mince, en fait. Ils voient chez toi un potentiel, parce que dans l'entretien, en fait, c'est comme lors d'un date, tu te montres ton meilleur jour, mais ce n'est pas qui t'es vraiment, en fait. Et on ne t'apprend pas à déplaire aussi. Notamment pour être heureux sur le long terme, tu vois. C'est pas vraiment honnête. Et je me retrouve là-bas, au milieu de geeks. Et je me dis, c'est pas mon univers. On te dit en école de commerce, de toute façon, si tu sais vendre un truc, tu sais tout vendre. Ouais, mais et moi, et la notion de, est-ce que ça me rend heureuse de faire ça ?
Oui, est-ce que c'est en accord avec tes valeurs aussi, ce que tu fais ?
Ouais. Ouais. Et là, même quand j'en parle, c'est super chiant. je me retrouve dans une espèce de grosse machine où on me dit, bon, bah voilà ce qu'on attend de toi. Et là, je me dis, mais quel enfer, en fait, c'est pas du tout là où je veux être. Mes collègues de travail, c'est pas du tout. T'as le droit d'avoir des attentes, en fait. Et en fait, tout est fait pour te dire, non, t'es à la bonne place, tu vas gagner plein de sous, le timing est bon, tu vas régler l'emprunt. C'est bon, en fait, fiche de salaire à la fin du mois. Et là, en fait, j'ai fait une espèce de dépression au bout de 2-3 mois. En fait, au début, ça allait. Genre, je suis allée voir le médecin un matin et j'ai pleuré un peu. J'ai dit, ouais, franchement, ça me gonfle et tout, je veux plus y aller. Il me dit, bon, écoutez, prenez du magnésium, ça va passer. Du coup, non, mais en fait, voilà, donc tu couvres, en fait. Après, le soir, tu sors un peu avec des copines, tu te fais un dîner, tu fais un petit apéro, tu te lâches un petit peu, t'es là, bon. Le lendemain, me revoilà au travail et là... Je dis non, en fait, j'ai pas envie d'y aller, je crois que je vais mettre en arrêt maladie, alors qu'en plus, tu culpabilises parce que c'est pas ma mentalité, tu vois. Mais je me dis, mais je suis pas malade. Alors qu'en fait, si, mais on te dit que non, en fait. Du coup, c'est quoi être malade ou quoi en avoir marre? Et en plus, c'est les premières fois de ta vie où tu somatises, donc tu sais pas du tout à quoi t'attendre. T'es la main, c'est une première fois, je sais pas trop. Ou où est-ce que ça s'arrête? Peut-être que ça va s'arrêter, là.
Et t'avais des symptômes. En fait, comment tu faisais pour écouter finalement ce que ton corps te disait? Est-ce que du coup, de manière naturelle, tu es plutôt intuitive et du coup, tu sens que ça va pas? Ou alors vraiment, tu avais des symptômes de plus en plus forts? Même, je pense, à des symptômes physiques, tu vois.
Bah, je savais pas, c'était la première fois. Du coup, j'avais une espèce de sensation de boule dans le cœur qui m'oppressait. J'avais vraiment pas envie d'y aller, mais j'étais là. Oh, arrête de chipoter. C'est bon, t'as un travail, t'as un CDI. Bah, discours qui est pas le mien, mais qui est celui de ton entourage, en fait. T'as de la chance d'avoir un travail. Du coup, tu dis oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, c'est pas toi, mais c'est tout ce que la société te renvoie. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y retourne. Et là, je retourne chez le médecin 2-3 jours plus tard, mais ça se fait en une semaine, c'était dramatique. Et là, je pleure, mais une demi-heure, sans m'arrêter. Et là, il me dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en 4 jours? Je dis, ben, je peux plus, en fait, ça me plaît pas, je suis enfermée dans un bureau 8 heures par jour. Et là, genre, ouais, je commençais à faire des espèces de tachycardie, des espèces de crises d'angoisse, en fait, littéralement. Et du coup, bah là, truc classique, il te colle sous antidépresseur. Ou anxiolytique, ah ouais, je sais plus. Parce que j'étais vraiment...
Mais t'étais jeune.
Bah ouais, mais du coup, tu sais pas. Donc non, je sais plus si je suis allée 2 fois ou 3 fois. En gros, c'est sur une semaine. J'ai eu 2-3 rendez-vous. Et il me dit, bah prenez ça, ça va vous calmer, ça va aller et tout. Mais tu vois, on te dit pas, faudrait que vous vous fassiez accompagner. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place. C'était, écoutez, là, c'est peut-être une période. Allez, on te colle ça, ça va passer. En fait, on fait taire tout ça et t'y retournes. Au moins, c'est moins compliqué. Peut-être que moi aussi, c'était dans mon discours, quoi. Et donc, j'ai pas voulu les prendre. Parce que je me suis dit, mais mince, j'ai 23 ans, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et en fait, bon, je choisis de quitter mon travail en parallèle. La crise d'angoisse monumentale au moment d'aller poser ma DM. En fait, j'étais un petit peu rentrée chez mes parents quelques jours. J'avais dit, en fait, je veux plus. J'y arrive plus. Et n'importe qui rentrait dans la maison, genre mon oncle qui passe par là, qui me dit alors comment ça va, je fonds en larmes. Et je me dis, mais je suis bizarre. Tu sais, cette espèce de syndrome de je suis bizarre. Alors qu'en fait, tu t'enlèves juste un petit peu les couches de l'oignon en mode et tu commences à montrer un peu qui t'es vraiment. Et forcément, je suis allée trop loin dans un truc qui me plaisait pas. Et là, je me dis, mince, mais pourquoi je pleure autant? Il y a vraiment un problème. Et du coup, donc je retourne à Marseille quelques jours plus tard pour poser ma DM. Et là, à l'approche du lieu où j'allais la poser, crise d'angoisse. Et là, je me dis, mais je comprends pas, en fait. Mince, pourquoi? En fait, c'est comme si mon corps voulait pas et ma tête, mon mental me dit, fais-le. Et du coup, je me dis, mais c'est super bizarre, en fait. J'ai envie de faire un truc, j'ai l'impression que... Et en fait, mon corps veut pas y aller. Et là, je me dis, mais c'est vraiment handicapant, c'est quand même un problème. Parce que du coup, ma tête me dit, fais ça. Parce que gagne de l'argent, fais comme ci, fais comme ça, en mode plan d'action. Et mon corps veut plus. Et là, c'est un vrai problème. Parce que du coup, t'es complètement tétanisé, tu peux plus avancer. Et là, je me suis dit, mince, ça va être compliqué à gérer ça dans une vie. Du coup, tu te sens encore plus bizarre. T'es là, mince, je suis nulle. Oh, pourquoi je fais des crises d'angoisse? Donc, évidemment, tu les caches. J'étais allée avec une super copine à moi en mode, oh, le dis à personne et tout ce qui s'est passé. J'ai tellement honte. Même, t'arrives dans le bureau, je suis allée poser madame. Bah, du coup, là, je m'étais pris un petit cachet aussi, pareil, parce que j'étais dans un tel état, c'était insurmontable, quoi. Mais pour pas sembler bizarre, alors que maintenant, tu me dirais ça. Mais déjà, j'irais peut-être pas jusque-là. Et quel est le problème de pleurer, en fait? C'est... Je me sens pas à ma place, je suis vraiment désolée, tu parles avec ton cœur. Mais à l'époque, je voulais la jolie façade jusqu'au bout, alors qu'en fait, il n'y a plus d'enjeu, tu poses ta DM. Mais je sais pas, c'est un espèce de truc où jusqu'au bout, t'es dans une espèce d'aveu, tu veux pas être dans un aveu de faiblesse. Et du coup, t'es toujours pas toi, en fait.
Ouais.
Donc en fait, ce que tu reçois en face, les gens, ils peuvent pas comprendre qui t'es, puisqu'en fait, tu veux à tout prix masquer pour avoir une très jolie carapace, quoi. Et donc, suite à ça, ben, je me dis, je vais partir de Marseille parce que vraiment, professionnellement, j'ai l'impression de stagner un peu. Je vais monter à Paris pour travailler. Et là, pareil, bah, j'ai dû affronter un peu les peurs de ma famille, qui n'étaient pas les miennes. « Ah, qu'est-ce que tu vas faire à Paris ? C'est cher, Paris. Il y a tout ici. » En fait, pourquoi est-ce que tu ne reproduis pas le schéma familial ?
Et c'était quoi ton schéma familial ?
Schéma familial, ma mère au foyer, mon père qui travaillait, et en province, quoi. Du coup, bah, les loyers moins chers, ouais. Tu connais tout le monde, donc si tu as un problème, tu appelles n'importe qui. Tu vois, il n'y a pas de problème de travail, entre guillemets, puisque tout le monde se connaît un petit peu, il y a une espèce de solidarité qui se met en place. Pourquoi est-ce que tu vas aller à Paris ? Du coup, en fait, tu dois te justifier alors que toi-même, tu sais pas, déjà. Et ils ont très peur. Du coup, je pars avec ça, alors que moi-même, j'ai peur et que je fais des crises d'angoisse, que je me suis dit « Oh, mon Dieu, ce que je viens de vivre, j'espère que je vais pas le revivre. » Et en fait, si. Parce que quand ton corps, il a mémorisé que t'en faisais, bah, tu l'oublies pas comme ça, en fait. T'as peur d'en refaire, t'as peur de paraître bizarre, t'es là « Bon, allez, j'ai déjà foiré sur la première, maintenant, va falloir que ça marche, quoi. » Tu te mets la pression. Et du coup, je finis dans l'immobilier, dans une foncière, avenue Georges V. Un truc super bling. Et sur le moment, je suis super contente. Je me dis, bon, bah là, niveau critères, on est bien.
Et pareil, comment tu fais pour retrouver ce job ? T'as juste besoin de payer ton loyer. Et du coup, c'est concours de circonstances qui fait que tu trouves cette opportunité.
Bah, je me remets un peu dans le système poker face, meuf parfaite. Je sais passer des entretiens, donc j'y vais, quoi.
Ouais, donc quand même, à ce moment-là, t'as un petit sursaut, mais... Tu retombes dans
en fait,
ce truc.
Je me rends compte que j'y retombe.
Ouais.
Tête baissée. Finalement, je m'extirpe dans le truc. Je me dis, bon, la prochaine fois, essaye de faire un peu moins pire, quoi, entre la peste et le choléra. Donc, cette fois-ci, c'était la peste. La prochaine fois, on prendra le choléra, tu vois. Donc, je me dis, allez, on recommence. Donc, je me remets un joli masque et j'y retourne. Et finalement, ben, il se repasse la même chose. Donc, j'ai tous les entretiens. Et au bout d'un an et demi, je pète en plomb. Je me dis, mais en fait.
Parce que là, du coup, t'es en gros agent immobilier.
En gros, ouais, je m'occupe de tout ce qui est vente et location, tout ce qui est triangle d'or, quoi. Je suis en contact avec les architectes, les maîtrises d'œuvre, je rédige des gros contrats et tout. Ouais, c'était quand même un truc assez dense et j'apprenais beaucoup, donc c'est ça qui me stimulait
ouais.
aussi.
Ce qui pourrait sembler un peu moins atroce, entre guillemets,
ouais.
Que ton premier job, quoi.
C'est ça, mais en fait, finalement, ça l'est tout autant, parce que l'humain, dans tout ça, en fait, je me retrouve au milieu de gens qui sont... Leur leitmotiv, c'est l'argent, c'est les affaires, à n'importe quel prix, au prix de l'humain aussi. C'est des journées de travail de 10-12 heures où tu pars le soir à 18h30, on dit t'as pris ta journée. Donc au début, t'es choqué, et à la fin, c'est toi qui le dis limite à celui qui part à 18h30. Quoi. Alors qu'en fait, c'est légitime d'avoir une vie, des hobbies, des choses à faire, mais en fait, c'est pas concevable. Du coup, t'es là, mais... Et puis même, en fait, tu peux pas être d'humeur égale tous les jours et aussi performant, mais là, c'est ce qu'on te demande. Et c'est des réflexions du genre, bah ici, les gens, on les presse comme des citrons et quand ils en ont marre, ils s'en vont. Et moi, je me dis, bah, je suis jeune, j'ai plein d'énergie, donc ça tombe bien, je ne suis pas encore pressée. Du coup, tu sais, tu te mets dans un truc où moi, je ne vais pas être comme les autres, moi, je ne vais pas craquer, moi, je serai capable. Tu as cette espèce d'ego où tu te dis, non, mais moi, je vais faire mieux que les autres. Alors qu'au final, donc là, je ne suis pas allée jusqu'au bout, je me suis dit au bout d'un moment, mais je ne comprends pas, en fait. J'ai un salaire qui est un peu misérable, parce que du coup, bah, pareil, on te dit, par contre, t'es avenue Georges V, t'as tel poste et tout, ta carte de visite, elle est bien jolie, tu vois. Mais par contre, on n'a pas trop d'argent pour te payer, donc tu as commencé à 1 500 €. Nous, les coms, on les prend, nous. Et toi, t'es un peu la troisième roue du carrosse, tu nous rapportes des gros deals, et après, c'est nous qui les signons, par contre, donc un peu le truc un peu macho. Mmh. T'es mignonne, tu vas aller faire tous les déjeuners, tous les rendez-vous. Et puis nous après on fait les deals entre mecs derrière, merci pour tout quand même. Et donc évidemment ben, tu t'as pas de com sur les deals parce que j'avais fait un truc à plusieurs millions d'euros, merci hein, mais du coup on va quand même finir nous, tu vois, on comprend, donc voilà, en fait ton salaire il est justifié aussi. Et là j'ai dit attendez les gars, et moi quoi, et là ouais mais non mais attends, et là j'étais là non en vrai, en fait je trouve, si je fais ça pour de l'argent très bien mais j'en veux. Et du coup, j'en avais pas. Donc, je me suis dit, en fait, là, il y a un problème, c'est pas logique, tu vois. Et donc, du coup, je pars. Donc, là, cette fois-ci, je finis chez Next City. Et je me dis, bon, c'était bien beau de vouloir avoir le job. En gros, intellectuellement, c'était assez élevé. Il y avait beaucoup de challenges, une grosse charge de travail. Mais je me dis, finalement, si c'est pour gagner ça, bah, en fait, je vais aller faire un truc mieux payé ou je me casserai moins la tête. Donc, là, en fait, en termes d'ego, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre. En fait, je suis mieux payé. Pour faire un taf moins qualifié.
Ouais.
Et là, je me dis, mais c'est complètement illogique. Et en plus, je me marre, parce que j'avais une super équipe. Et je me dis, mais mince, en fait, ça me pose un problème, parce que quand j'en parle aux gens, oh, j'ai l'impression d'être surdiplômée. Du coup, mon ego, il est pas très content, tu vois. Et même, je préférais me la raconter en disant que je bossais à Avenue Georges V, etc. Et je me dis, mais je préfère ma vie maintenant. Je dis, mince, mais du coup, qu'est-ce que je vais dire aux gens, tu vois? Parce qu'en termes de prestige et de... Oh, je me suis dit, mince, ça me pose un petit problème. Mais bon, finalement, je me marre, donc j'oublie vite tout ça. Et là, en fait, bah, pareil, tu vois, en fait, moi, c'était surtout l'humain qui était au centre de tout ce que je faisais dans l'immobilier. Et en fait, bah, les membres de mon équipe partent un à un, le monde de l'entreprise, où y en a... j'ai une super pote à moi qui se fait licencier, un peu sans raison valable. C'est un peu la roulette russe, tu vois. Et je commence à comprendre que, comment dire, c'est un peu difficile de dire ça, mais si tu rentres pas dans les cases ou si t'es pas un peu dans la séduction, surtout en tant que nana vis-à-vis de ta direction aussi, bah déjà ça peut énormément t'aider, mais si tu vas pas là-dedans, que tu fumes pas de clope, bah, ça peut aussi te pénaliser dans un plan de carrière. Et moi je fume pas, j'ai pas prévu de draguer qui que ce soit.
Oui, le réseautage est hyper important.
Ouais, mais pire, là, c'est plus que du réseautage, en fait.
C'est du politique.
Ou de la drague, un petit peu, des trucs comme ça. Et je me dis, en fait, moi, ça me passe littéralement au-dessus. Je suis un peu un électron libre, je ferais pas ça. Donc, je me dis, en fait, ton avenir dans cette boîte, finalement, aussi, ben, t'es à ta place, mais c'est cool. Mais tu vas pas aller au-delà, parce qu'en fait, moi, le système de la hiérarchie, des réunions, du réseau, d'aller dîner les gens chez les autres, etc. C'est, franchement, une fois que j'ai passé ma journée là-bas...
Ouais, t'as pas envie de continuer ta journée avec tes
collègues. Voilà. Donc, du coup, bah, là, je commence à faire des trucs un petit peu à côté, genre de le cours Florent, en stage d'impro la semaine de Noël, mais vraiment juste pour développer...
Parce que là, j'allais dire, jusqu'à présent... Tu faisais aucune activité créa artistique, non. Même les week-ends et tout ça, t'avais vraiment complètement arrêté.
Bah, je faisais la fête, quoi. J'étais à Paris, donc j'en profitais, j'avais plein de copines. On faisait la fête, on sortait, c'était cool. Du coup, j'ai rencontré plein de gens comme ça. Mais je t'avoue, il faut du temps, il faut être concentré, il faut avoir de l'énergie. Alors que faire la fête, entre guillemets, tu te laisses juste porter par le truc.
Donc, cours Florent, c'est vraiment le... premier truc un peu artistique tu te remets.
Je décide de faire le cours Florent parce que j'en ai entendu parler, mais un peu par hasard en fait. Et là, incroyable ce qui se passe pendant cette semaine. En fait, tu apprends à expérimenter des émotions les unes après les autres dans des jeux de rôle et tu te retrouves dans des rôles qui sont pas du tout toi. Du coup, tu apprends à ressentir des choses à travers un personnage et en gros, il se passe beaucoup de choses durant cette semaine. Et j'arrive le lundi matin dans l'immobilier et là, je fonds en larmes. Là, je me dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Et je regarde ma pote, et je lui dis, qui était dans mon bureau, et je lui dis, je sais pas ce qui m'arrive, je dis, mais je crois que je vais pas finir ma vie ici. Et là, elle explose de rire, je la mets, je pense que je viens d'avoir une prise de conscience aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si t'essayais de te reconnecter un peu à ton enfant intérieur, t'enlèves des couches, du coup, tu retrouves cette espèce de côté un peu fou, un peu spontané, plein d'énergie, parce que finalement, c'est ce qui te ressemble. Et quand tu reviens le lundi, il y a un tel contraste que tu dis, oh, mince, en fait. Tout ce que j'ai, je suis allée chercher pendant cette semaine, et ben en fait, c'est moi. Et moi, maintenant, en fait, c'est comme si t'as enlevé un voile que t'avais devant les yeux, que tu voulais te conformer à un truc, et je me dis, mais mince, ici, je me marre bien, mais ça sera pas pour toujours, en fait. Après ça, je m'inscris au cours du soir des Beaux-Arts aussi. Et pareil, en fait, là, bah, ça m'occupe genre 2-3 heures, c'est par semaine, en fait. Et je me dis, tant qu'à être à Paris, autant profiter de ce genre d'expérience, quoi. Et là, pareil, je me dis, ah, c'est chouette, j'aime bien dessiner et tout. Pareil, donc, ça me fait du bien. Puis après, je mets ça dans un coin, ça m'ouvre. Mais bon, j'ai toujours pas le truc. Après, je continue à faire du yoga aussi, parce que j'en faisais depuis longtemps, notamment pour les crises d'angoisse. Parce que j'ai continué à en faire. Le système de la réunion, tu sais, quand t'es dans une réunion, genre, ils ferment la porte et on attend des comptes rendus de toi. Tu sais, ça te met une espèce de pression. Il n'y a pas cette proximité, cette bienveillance, en fait. Il y a toujours cette espèce de truc de hiérarchie où ton boss veut un peu t'impressionner quelque part pour te montrer que c'est lui qui a l'ascendant sur toi. Et ce n'est pas forcément nécessaire, en fait, mais c'est un peu ce système de... Le respect un peu par la peur. C'est pas genre, vous êtes tous autonomes, faites votre vie, on se fait confiance. Il y a toujours cette espèce de truc où t'es un peu craintif, quoi. Donc en fait, voilà, donc les crises d'angoisse continuent. Et donc moi je fais du yoga parce que ça m'aide en fait à ressentir un peu mon corps, à me calmer, à calmer mes pensées. J'étais vraiment nulle au départ, hein, je touchais même pas mes pieds. Et à me dire ok, genre t'es dans des situations inconfortables mais t'apprends à y rester. En fait c'est un peu ce que m'a appris le yoga. C'est super, c'est horrible en fait. Et parce que j'étais vraiment pas souple. Et du coup j'arrivais à transposer ça lors des réunions où je me disais voilà là t'es dans une posture, c'est super inconfortable et tu dois y rester. Donc du coup, j'arrivais à me calmer comme ça, à me canaliser un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai compris plus tard que j'arrivais pas à me canaliser parce que j'avais besoin de m'exprimer. C'est comme si j'avais une boîte à l'intérieur de moi, j'avais besoin de tout sortir pour commencer à découper, créer, dessiner. Et du coup, c'était là, c'est ce qui du coup se transformait en crise d'angoisse, parce qu'en fait, c'était tellement intense, ça voulait sortir. Je me mettais à avoir la tête qui tournait, j'avais un milliard de pensées, mais qui ne savaient pas où s'accrocher, donc ça devenait un espèce d'immense bazar. Et je me disais, mince, et là, je commençais à avoir chaud. Et là, on me pose une question, je ne suis pas du tout concentrée, du coup, je me dis, oh, mince, ils vont comprendre qu'en fait, je n'écoute pas. Et là, crise d'angoisse, en fait. Donc, c'est un peu le système que j'ai compris après, quoi.
Et ça, tu faisais au boulot des crises d'angoisse?
Ouais.
Ok, ouais, donc tes collègues savaient que tu faisais des crises d'angoisse
Pas vraiment, mais... j'en parlais un peu à ma pote, après ma hiérarchie, je leur en parlais un peu aussi, quoi, mais ouf, ils écoutent, mais en attendant, le système, il change pas forcément, quoi.
Et du coup, c'est quoi ton déclic? Ou vraiment, tu te dis là, c'est plus possible
Mon déclic, donc déjà, c'était le cours Florent, parce que du coup, je me suis dit, ah waouh, je suis allée chercher tellement profond, que finalement, une fois que j'ai déterré tout ça, j'ai plein de couleurs, comme si j'étais allée chercher plein d'oiseaux, de couleurs, d'arc-en-ciel en moi, tout est un peu sorti, je me dis, je fais quoi maintenant? Je vais les abandonner, je vais les re-rentrer. Non, tu peux plus faire comme si tu savais pas. C'est comme si tu avais vu un peu une partie de toi. Et mon déclic, ça a été aussi dans l'immobilier, parce que je m'entendais super bien avec la nana qui était dans mon bureau, qui est devenue une super pote. Et un jour, elle se fait licencier. Et là, je me dis, en fait, on était le binôme de l'espace où on faisait que rire tout le temps. Oh, et je me suis dit, mais en fait, ce job, si elle est plus là, et si on rigole plus autant, mais finalement, moi, ça me nourrit pas vraiment, quoi. Je reste là aussi parce que du coup, on s'entraide et qu'on rigole énormément. Et là, je me dis, ok... Et puis quand je vois aussi comment ils l'ont traité, je me dis, en fait, sois pas naïve. Le jour où tu corresponds plus à la grille de critères et aux cases cochées, ou tu veux tout simplement les décocher, en fait, c'est pareil, tu sors, en fait. Et là, je me dis, waouh, je comprends ça, en fait. Je me dis, si un jour tu sors du cadre, que t'es plus la meuf parfaite, que t'as envie d'être, tu sors. Et là, je me dis, ouais, c'est violent quand même, mais c'est ce qui s'est passé. Et là, je me dis, ok, il va falloir que je bouge. Donc, je négocie ma rupture conventionnelle. Là, évidemment, ils te mettent des coups de pression. Ils te disent, on n'en a jamais donné. du coup, ils te convoquent. Moi, j'ai fini face au DG qui me dit, moi, je manage 40 ou 50 personnes. vous croyez que vous me faites peur? Et là, je lui réponds, écoutez, en vrai, moi, là, en ce moment, je suis au minimum de mes coms. Je dois gagner 1 400 € par mois. Donc, franchement... je dis, vous me faites pas peur et j'ai rien à perdre en fait.
Parce que ça, t'avais rien à perdre.
J'ai dit un coup de pression, pourquoi? Tu me mets un coup de pression parce que je gagne 1 400 € par mois, mais ça va être vite réglé en fait. Y a pas de pression. À la limite, tu m'enlèverais un job de rêve, mais alors là, je vais me dire merci pour le coup de pression, mais il est pas nécessaire. Je dis franchement, ça glisse. Donc non. Mais ils font tout pour essayer de te ramener dans le troupeau en fait. Et je dis, je suis désolée, en fait, il y a plein de dysfonctionnements, des choses, mes conditions de travail, j'étais dans un bureau, il n'y avait pas le chauffage, ils ne m'avaient pas racheté dans une agence fantôme, une espèce de vitrine. Et je leur ai dit, je veux bien aller dans votre sens, mais à un moment donné, ce n'est pas ma boîte. Et encore une fois, pour 1 400 € par mois, quand je fais le minimum syndical, normalement, j'étais censée quand même avoir plus quand je me donnais un peu, mais... Si vous m'impliquez pas un peu plus par rapport à des choses qui, moi, me parlent, en fait, ça va se finir comme ça, quoi. Donc là, je demande une rupture conventionnelle. Et pareil, ça a été une négo un peu de longue haleine pendant 2-3 mois, où il fallait pas lâcher. Et en fait, ils essayent tous les petits trucs classiques pour te faire craquer, parce qu'en fait, t'es campion parmi tant d'autres. Et en fait, on a un budget rupture conventionnelle par an. En gros, comment on le dispatch? Mais ça, évidemment, ils te le dispatchent, t'en prends conscience après. C'est du management, quelque part. Donc en fait, on te fait croire que t'y as pas droit.
Très utile pour ceux qui écoutent et qui ont envie de demander une rupture co, mais qui se disent « Ah, elle va jamais être acceptée. »
C'est ça, en fait. Et en fait, mais c'est toi, c'est ton parcours, c'est ce que tu as envie de faire. Et encore une fois, une rupture conventionnelle, quand il n'y a pas de faute grave ou autre, c'est quelque chose de légitime aussi. Ça t'aide à te relancer dans la vie. Il faut en parler. Bon, moi, ça n'a pas forcément été une discussion. C'était des coups de pression, t'as qu'à partir, t'as qu'à démissionner. Ouais, mais en fait, déjà que je suis à la com, ça fait déjà plusieurs mois que je suis pénalisée par une organisation qui m'a été imposée, notamment le fait d'être dans une agence un peu fantôme, etc. Loin des équipes, ce qui fait que je devais aller porter mes dossiers à chaque fois à une demi-heure de là. Donc, en fait, ça me pénalisait énormément. Donc, en fait, non. Genre, ma part de l'effort, je l'ai déjà fait. Donc, en fait, c'est pas logique. Après, faut être juste aussi. Si t'es vraiment un peu le mouton noir et que tu fais rien, etc. Depuis un moment, moi, c'est juste que je faisais quand même mon travail, quoi.
Ouais.
Je suis pas allée... crier pour crier, C'est juste qu'à un moment donné, c'était pas constructif. J'avais essayé jusqu'au bout, mais à un moment donné, ça ne marche pas. Il s'agit pas juste de crier en tapant du poing sur la table, je veux une rupture conventionnelle, si t'es un mauvais élément. Là, c'était pas le cas, j'étais un méga bon élément. J'ai dit, mais c'est juste que là, en fait, au vu des handicaps qui se succèdent, j'arrive plus à faire mon travail. Et au-delà de ça, j'en ai plus l'envie non plus. Donc, l'un dans l'autre, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, trouver une solution qui nous aille à tous? Sachant que moi, la solution de la démission, j'aurais pas de chômage, donc c'est inenvisageable, en fait, clairement. Étant donné les efforts que je fournis depuis plusieurs mois, parce que je me conforme à ce que vous attendez de moi aussi. Donc, ouais, il faut quand même se conformer à un moment pour pouvoir être légitime à demander des choses. En fait, tu peux pas juste demander, ne rien donner. C'est ça que je veux dire. Moi, pendant des années, j'ai beaucoup donné. Et je me suis aussi conformée à ce qu'on attendait de moi. Tu peux pas non plus attendre des choses alors que tu donnes rien. Ça, c'est sûr.
Et quand tu arrives à signer cette rupture co?
Ouais.
Et est-ce que, à l'époque, tu sais déjà ce que tu vas faire ou juste, toi, ton objectif, c'est d'abord de toucher le chômage pour...
Non, alors en fait, moi, j'avais commencé à dessiner, du coup, donc j'ai fait un petit peu les Beaux-Arts, un petit peu le cours Florent. J'ai refait le cours Florent un an ou deux ans plus tard. Et j'adorais dessiner, en fait. J'avais, bah, pareil, en fait, pendant mon temps libre, un week-end, je m'étais dit, ben, je vais recommencer à dessiner. J'avais fait un éléphant un peu graphique que j'avais posté sur mes réseaux sociaux, dans genre mon Facebook personnel. Et j'ai eu plein de réactions. Ah, j'adore. Et là, j'ai une copine qui me dit, bah, j'aimerais bien que moi, tu me fasses un animal aussi. Par exemple, en flamant rose ou en... Je sais plus ce que c'était. Et du coup, je lui en fais un, je le reposte. Et là, un autre pote, ah, bah, moi aussi, j'en voudrais un. Et ainsi de suite, en fait. Du coup, bah, je commence à faire des petits dessins un petit peu. Je me suis dit, ah, bah, c'est chouette. Comme ça, je me fais un peu un portfolio, entre gros guillemets. J'ai quelques animaux, c'est cool, au moins je peux dire que je dessine, parce que du coup, tu peux pas... Je me sentais encore pas légitime à dire que je dessinais en n'ayant qu'un dessin. Donc finalement, je me dis, bon, bah, essaye de faire une espèce de série pour avoir un peu un univers à montrer. Donc je me suis dit, écoute, c'est cool, au moins j'ai un petit peu un univers, puisque c'est des gens qui me sollicitent, c'est bien, parce que au moins je me sens un peu encouragée, j'ai quelqu'un derrière, c'est pas de mon propre chef. Là, j'ai quelqu'un qui attend son dessin, quoi. Et voilà, donc j'en ai 10, et donc je travaille toujours dans l'immobilier, je fais ça un peu le soir, le week-end, donc ça me fait des grosses journées, parce que ça prend beaucoup.
Attends, mais quand tu dis que tu travailles encore dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu avais retrouvé un autre job ?
Non, en fait j'étais chez Nexity.
Ah, t'avais commencé le dessin quand t'étais
voilà,
encore ?
Voilà, exactement, okay. Et je dessinais sur mes soirées week-end.
D'accord, mais donc là t'avais commencé ?
J'avais commencé, okay. Mais il fallait arbitrer sur bah, le temps avec les potes, ouais. Un peu moins faire la fête, parce que du coup bah, finalement t'as plus... J'ai plus suffisamment de temps pour faire tout ça, quoi.
Ouais.
Donc j'avais un gros problème de planning même à un moment. Et après j'ai dit dessin et je me dis, ah, franchement j'ai envie de passer la vitesse supérieure. Je me dis, bah, j'ai des galeries d'illustrations que j'aime bien à Paris, je vais faire la liste et je vais aller les démarcher. Donc je me prends que des vents. Et il y en a une, en fait, je la relance pendant 2 mois. Je lui envoie 2 mails par semaine, je l'appelle et tout. Et elle,
c'est aussi que... super conseil, il faut ne jamais lâcher.
Bah ouais, parce qu'en fait, les gens, ils t'attendent pas.
Exactement.
Et il y a l'humain aussi, tu vois, les mails, c'est bien, etc. Tu regardes, t'es là, non. Et là, je pense qu'on se rencontre, elle a un peu pitié, elle se dit, mince, mais qui est-elle, genre, qui est cette personne qui me harcèle? Et du coup, on se voit, elle me dit, bon, bah, tes dessins sont cool, mais par contre, moi, le noir et blanc, non, faudrait mettre de la couleur.
Ah, est-ce que tu faisais que du noir et blanc?
Ouais, que du noir et blanc.
C'est incroyable quand on voit ton univers.
Ouais, mais c'était la première couche.
Ouais.
En fait, c'était la trame, ça, t'es un peu comme les fondations. Et là, pareil, faut pas se décourager. Je me suis dit, attends, mais sérieusement, les couleurs, mais comment, mais quoi ? Oh, mais je sais pas. Et du coup, je me dis, bah, tu vas en magasin d'art et tu poses des questions, par exemple. Parce que j'avais aucun pote artiste, quoi. Tout mon univers, c'était l'univers de l'immobilier, de l'école de commerce. Oh, du coup, je me dis, mais comment je vais faire ça ? Quelle couleur ? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Et là, bah, et même mettre un dessin en couleur, c'est le double de travail, en fait.
Ouais.
Donc, mon dessin, c'est 30 heures. Tu rajoutes de la couleur, tu rajoutes 20 heures.
Ah, un dessin classique, c'est 30 heures. C'est-à-dire que c'est quoi, à peu près, comme dimension ?
Je ne sais plus ce que je faisais. Je faisais des A4, en gros, ou des A3.
Ah ouais, donc c'est petit, quand même.
Il y avait beaucoup de détails, ouais, parce qu'en fait, je faisais ça avec des feutres très, très fins, avec plein de détails et tout. Et j'étais là, ah, mais des couleurs. Du coup, en fait, quand je les mettais, comme j'utilisais des Posca, ça venait un peu effacer. Du coup, donc, fallait tout coloriser. Enfin, après, il fallait tout reprendre. Du coup, j'étais là.
Ah ouais.
Donc, grosse motivation, quand même. J'étais là, bon,
ah, c'est une grosse semaine de boulot pour faire un dessin A4. Quoi.
Du coup, elle m'a dit, ok, mes couleurs. Et là, je suis là, bon, est-ce que je le veux vraiment ? Oui.
Donc, j'y mets.
Du coup, je dis, bon, bah, je reviens dans un mois. Et du coup, tout ça pour dire que c'est pas facile, quoi.
Ouais.
Donc, je reviens avec mes dessins en couleurs un mois plus tard. Et là, j'avais bossé la nuit jusqu'à 2h du mat, tous les week-ends et tout. Et donc là, j'ai 5 dessins en couleurs. Elle me dit, ok, cool. Elle me les prend, donc j'étais contente de dire que j'étais en galerie. entre guillemets, quoi.
Parce que l'intérêt pour toi, c'est plus la notoriété, de te dire que t'es en galerie. Tu peux vendre aussi un peu des dessins, j'imagine, mais c'est plus d'avoir un tampon, je suis représentée.
Un petit peu, genre ouais. J'étais tellement en quête de légitimité, ouais. Quand je voyais les bios des artistes dans la galerie, j'étais là, oh, moi qu'est-ce que je vais mettre ? Bah, du coup, je vais raconter un peu n'importe quoi, je vais dire que j'ai été formée aux Beaux-Arts de Paris, je vais omettre de dire que c'est en cours du soir. Parce que finalement, qu'est-ce que je vais dire ? Je sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie, je suis dans l'immobilier, avant ça j'étais ingénieure commerciale dans une boîte de pharmaceutique et c'était horrible, c'est ça ma bio. Et je fais des crises d'angoisse qui me poussent à me dire qu'il y a autre chose qui est possible. Donc me voilà, enchantée, c'est moi. T'es là, non, en fait, ça marche pas. Et donc je me dis, ben... Ouais, donc je propose mes dessins. Le tampon un peu galerie me rassurait. Parce que je me dis, bon, elle a l'habitude de voir des artistes, etc. Et j'ai fait des marchés de créateurs aussi.
Ok.
Donc j'ai imprimé mes dessins sur des cartes postales. Et des petits prints. Et je les vendais. Et du coup, je trouvais ça cool... Parce que j'ai toujours été un peu dans le partage, j'aimais discuter avec les gens, etc. Et ça me permettait de... Les gens qui me disent ce qu'ils ressentent quand ils voient mes dessins. Ah, ça, on préfère lui plutôt que lui. Parce que moi, quand j'ai la tête dans le truc, je sais pas qu'est-ce que les gens aiment. Qu'est-ce... Et pour moi, c'était quand même important de faire mon truc, mais d'être ouais. dans l'échange, de savoir ce qu'ils ressentaient, ce qui leur plaisait, ce qui les touchait. Avoir leur retour, j'aimais bien. Donc, marché de créateur un peu pour ça. Je gagnais très peu d'argent par rapport à l'investissement que c'était, mais j'aimais bien ça. Et après, j'ai voulu faire un peu ma première fresque. J'étais en vacances à Marrakech chez des copains. Et je leur ai dit, bah, est-ce que vous n'auriez pas un mur sur lequel je pourrais m'exercer ? Et là, ma pote me dit, bah, entraîne-toi dans la chambre de mon fils. Et du coup, là, pareil, première fresque. Parce que j'en avais un peu marre du papier. Je me suis dit, j'aimerais faire un petit peu de choses. Mais pareil, c'est un vrai challenge, mais j'aime bien un petit peu. Et là, première fresque. Donc, je fais un avion de la jungle avec un lapin dedans. Pareil, j'ai une galère monumentale, morte de stress, perspective absolument zéro. Jamais fait de fresque de ma vie. Je suis là, oh my god, dans quoi je me mets encore. Mais j'aime bien des fois me dire, oh punaise, qu'est-ce que c'est dur et tout. Parce que c'est comme ça que j'apprends et comme ça que je progresse quand je suis vraiment face au mur, quoi. Et donc, du coup, voilà la première fresque. Bah, pareil, donc du coup, trop contente, je prends des petites photos, etc. Du coup, les gens, ah, tu fais des fresques et tout. Donc, pareil, je fais une expo dans le bar d'un pote, bar dans lequel j'allais souvent. C'est toujours plus facile, en fait, quand c'est des proches. Du coup, ouais. Moi, c'est des proches qui commandaient mes dessins. Donc, il y a cette espèce de côté un peu bienveillant et encourageant.
Ouais, c'est ton premier cercle qui te soutient, en
voilà,
fait.
T'as toujours des potes très, très bienveillants qui sont prêts à te soutenir quoi qu'il arrive. Genre, OK, c'est super, montre-moi, je vais t'en commander un. Hein. Du coup, ça te donne un petit peu confiance pour que tu puisses montrer ce que t'as envie de faire, etc. La première fresque, donc, chez la pote, qui me dit, ah, c'est incroyable, j'adore. Donc, pareil, un petit boost de confiance. Après, un autre pote qui me dit, bah, fais une expo dans mon bar. Donc, pareil, ben là, en fait, je continue à avoir un retour sur les dessins qui plaisent, ceux qui plaisent moins. Donc, je me dis, OK, si je veux proposer des choses, je peux aller peut-être plus dans cette direction si je veux trouver un public. Parce que moi, le but, c'était pas que de m'affirmer moi, c'était aussi de plaire. Tu vois, j'avais besoin de tel besoin de légitimité que j'avais besoin de savoir qu'ils allaient être achetés. C'était pas forcément pour l'argent, c'était OK, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que ça plaît ? J'avais besoin de trouver un public, en fait, de trouver des gens à qui m'adresser. En tout cas, à travers le dessin. Et après, bah, vraiment, fil en aiguille, bouche à oreille, une fresque, puis l'autre. Donc après, entre-temps, donc, je négocie ma rupture conventionnelle en parallèle de tout ça. Et donc, je me retrouve un peu livrée à moi-même au chômage. Donc là, bah, t'es complètement livrée à toi-même. Et là, je me dis, heureusement que j'ai attendu le dernier moment. Parce que quand tu travailles plus, finalement, les journées, elles peuvent être très longues. Ouais. Le téléphone, il sonne pas parce que personne t'a attendu. Tu démarches. Donc moi, je faisais beaucoup de plans gratuits. Et je me suis dit, je me suis tellement sentie inutile pendant longtemps dans l'immobilier que ben, je vais faire des choses pour les autres. Donc, je claque mon seul tout compte pour partir à Bali, pour peindre dans un orphelinat dans lequel je passe 3-4 jours. Et là, je me dis, waouh, OK, pareil, un peu une de mes premières fresques participatives. Je trace les contours et les enfants, en fait, ils viennent remplir à l'intérieur. Donc, c'est cool parce que je me sens utile. Ça m'exerce aussi. Je découvre un univers et je vais chercher dans tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai envie de représenter. Et ils payent aussi le matériel. Donc ça, c'est cool aussi pour moi. Donc j'en paye une partie parce qu'ils n'ont pas forcément trop les moyens. Mais ils soutiennent un peu sur l'achat du matériel. Et c'est tellement bonne vibe. Je rentre à Paris, je me sens vraiment... Waouh, je me dis, OK, il y a une autre vie qui est possible. Il y a des gens qui vivent autrement à l'autre bout du monde. Donc finalement, même si l'art, ça ne fonctionne pas pour moi, je pourrais faire un volontariat à l'étranger, nourri, logé, payé. Et au moins, je suis dans une asso. Je suis dans un mouvement qui sert à quelque chose. Et peu importe en fait l'argent, même si j'en ai besoin, au moins pour payer mes billets d'avion, faire 2-3 trucs, mais c'est plus le leitmotiv en fait. Je mets mes compétences au service d'une cause qui, moi, m'anime et que je trouve utile, en fait. C'est pas seulement faire de l'argent, remplir des tableaux de chiffres, etc., quoi.
Et j'allais dire, à ce moment-là, t'es juste hyper libérée et t'as plein de choses qui s'ouvrent à toi, mais est-ce que t'as quand même des craintes ou des peurs, parce que c'est quand même un milieu
énormément.
Qui n'a rien à voir.
Énormément. Donc là, je suis complètement paumée, on va pas se mentir. Je vends des cartes postales sur des marchés de créateurs. Je vais voir un pote qui bosse dans la finance, qui me dit, si tu veux, je vais te faire un business plan. Je dis, ah, mais trop bien. La pote qui m'a fait faire la fresque chez elle à Marrakech, elle a une entreprise de bougies, je vais faire des bougies. Et là, je dis, non, mais tu vois, heureusement que t'es un peu fou et que moi, je me suis un peu lancée sans forcément réfléchir à tout, parce que sinon, le calcul, t'as super peur, en fait. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, il faut t'entourer de ton cercle proche, les gens qui t'entourent et qui croient profondément en toi, et tu te lances. Parce que si tu commences à faire des calculs, à te dire, ok, si je vais être dans les clous, légalement, que tu commences à faire tous tes calculs, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc des fois, il faut un peu être tête brûlée, se lancer, te dire, je verrai bien ce qui se passe. En l'occurrence, j'ai eu un projet pour une fresque à Marrakech, qu'on me propose, que j'accepte à un tarif dérisoire. Et je comprends pas, en fait, pourquoi j'ai accepté ça, mais je sais pas. Donc, je me retrouve au Maroc sur un plan hyper galère. En fait, je crois que j'avais dû facturer 1000 euros pour 50 mètres carrés de fresque. Mais je réalise même pas ce que ça représentait. Là, un peu le destin, finalement, joue en ma faveur. Fissure dans le mur, infiltration, limite l'archi qui te dit. Mais en fait, la couleur de fond, on n'a pas pensé à la mettre. Mais tu veux pas faire ta fresque avec la jungle et tu peindras la couleur de fond entre les trucs. Là, je me dis... Non, ça va être plus compliqué que de faire la couleur, tu vois. Et tu demandes un escabeau, ils te disent un escabeau ? Mais tu n'en as pas pris un, t'es là, bah non, je viens de France, j'ai pas pu le prendre dans l'avion.
Dans la cabine. Ouais.
Ah, d'accord, ok. Donc finalement, je me dis, bon, Donc j'étais, mais vraiment déprimée. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Et heureusement, parce que si toutes les conditions avaient été remplies, pour ce tarif-là, franchement, j'en aurais eu pour un mois et demi. Donc en gros, tout ça pour dire que le projet allait droit dans le mur. Pour plein de raisons. Moi, je voyais le truc s'effondrer sur ma tête et je me disais, mon Dieu. Et en fait, genre, je commençais à peindre. J'avais le mec qui peignait le plafond, les gouttes qui me tombaient dessus, la poussière qui venait se coller sur ma fresque. J'étais là, mince, arrêtez tout, il faut nettoyer. Du coup, je comprenais pas, en fait. Bon, donc tout ça pour dire que ça, c'était le pire.
Ouais. Mais c'est bien que tu racontes aussi, parce que tu vois, souvent on voit que le point d'arrivée, mais en fait, avant, il y a tellement de galères.
Ah, mais c'était horrible. En fait, j'étais en larmes. À un moment, je décide de travailler la nuit, parce que je me dis, la journée, c'est plus possible sur ce chantier. Et j'étais en larmes, en fait, un midi. Et là, je me dis, je vais aller prendre un thé au riad Yasmine, qui est un riad que j'avais spoté sur Instagram. Et là, donc je rentre dans le riad. La nana de l'accueil, qui est en fait la propriétaire, Alice, on commence à sympathiser rapidement. Je lui laisse ma carte, mon Insta. Et donc voilà, donc la nuit, je vais rebosser sur mon chantier d'enfer. Et le lendemain, je reçois un message d'elle. Et elle me dit, écoute, j'aurais une proposition à te faire. Est-ce que tu peux repasser ? Et là, mon projet, mais c'était encore pire que tout. De jour en jour, je me suis dit, mais pour 1000 euros, en fait, je vais rester 2 mois ici, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça va être les vacances de Noël dans 2-3 semaines. Ça va coincer, en fait. C'est pas possible. Les fissures, c'était pas prévu. Mais pareil, en fait, tu connais pas. C'est pour ça que je te dis qu'il faut jamais... Des fois, il faut se lancer un peu. J'avais pas pris d'acompte.
Ouais.
J'avais pas bloqué, attention, il me faut un mur que je puisse exploiter. Si je peux pas l'exploiter, ben du coup, pas des pénalités. J'aime pas ce mot-là, mais faut dire aux clients, attention, par contre, moi, mes jours ici, c'est des jours pendant lesquels vous me mobilisez, pendant lesquels je peux pas faire autre chose. Donc, il me faut un dédommagement d'une manière ou d'une autre. Bref, donc je savais pas. Mais je commence dans ma tête à comprendre que, du coup, il faut un acompte. Tu vois, je me dis, ah ouais, mince, t'aurais dû demander un acompte, vraiment. Donc, j'apprends face à une situation. Ouais. Et là, coup de chance, le lendemain, Alice me propose de faire la fresque au riad Yasmine, derrière la piscine. Et là, je me dis, ah ouais, donc en fait, le pire, le mieux. Le riad, en fait, son riad, il a été shooté dans plein de magazines déco. Les photos autour de la piscine, elles font le tour du monde à chaque fois parce qu'elle a des blogueuses et des influenceurs hyper connus, des photographes. Et là, je me dis, non, mais c'est incroyable. En fait, je suis au bout de ma vie. Le chantier, en fait, l'autre, je vois qu'il touche à sa fin. C'est un bourbier, mais incommensurable, je vais jamais m'en sortir. Et là, ça. Comme quoi, en fait, tu vois, si j'avais tout analysé dès le départ, je me serais pas rendue au Maroc et j'aurais pas eu ça. Et le riad Yasmine, pour moi, ça a vraiment été le projet qui m'a lancé.
Ok.
Et qui a fait que, du coup, donc, je vais au riad Yasmine. Bon, pareil, en fait, c'était un échange d'un logement. C'était gratuit, l'affaire, ce que j'ai fait. Donc, encore une fois, tu vois, faut pas avoir trop d'ego. Je passe d'un projet payé et galère à un projet gratuit. Donc, après, c'est des arbitrages. C'était, bah, je te loge, mais je me suis dit, ok, je pose mes pions, ça peut être cool pour plus tard. Et donc, bah, là, on fait la fresque. pareil, une tonne de magazines qui passent derrière, une tonne de photos qui tournent, des gens qui disent « Ah, qui est l'artiste qui a fait cette fresque, on va la contacter ». Donc moi, ça me rapporte du travail derrière,
ouais,
des super photos.
C'est de là que vient un peu ton boom des réseaux sociaux.
Ouais, okay. Bah, du coup, je suis passée de genre 1000 followers à 5-6 000 parce qu'ils sont extrêmement suivis. Et du coup, pareil, mon travail commence à tourner un peu grâce à ça. Je me fais aussi des super potes, donc l'humain aussi avant tout. Et maintenant, ça fait partie de mes meilleurs amis, tu vois. Donc finalement, humainement génial. Mmh. Des super photos, des super contenus. Donc même si pas payé de base, bah, ce qui en découle derrière, incroyable, tu vois. Et voilà, donc c'est vraiment comme ça que ça m'a lancé. Donc d'une situation où je me suis dit vraiment, là, je touche le fond. Bah, en fait, il y a le soleil derrière. En fait, c'est aussi dans l'ombre que tu te rends compte que quand tout se passe bien, tout se passe bien. Parce qu'en fait, il te faut des outils de comparaison, tu vois. Tu connais pas le bonheur sans le malheur, parce que si t'étais tout le temps heureux, finalement, tu sais pas trop, puisque t'as pas connu une autre chose. Donc, finalement, je me dis, ok, le meilleur, le pire, le meilleur, voilà. Donc, je me dis, en fait, faut pas lâcher, faut pas se décourager. Et si j'avais tout calculé, etc., que je m'étais fait ma feuille de route, où j'avais vraiment des attentes particulières, mais je serais jamais allée là-bas.
Ouais.
Et combien de fois je suis un peu partie tête baissée, le truc est un peu plan galère, mais il y a toujours un dénouement positif. Soit parce que j'arrive à sortir de la situation, à la sublimer, et il y a toujours un truc, en fait, après, ça peut se passer mal pour plein de raisons, mais quand tu parles aux gens, il y a aussi l'humain, ils t'expliquent, et t'arrives à transcender le truc, et à arriver à un résultat positif, quoi qu'il arrive. Bon, là, c'était pas le cas sur la première fresque, mais des fois, ça m'arrive où j'ai des clients peut-être super stressés. Je me dis, mince, ça va dans le mur, qu'est-ce qui se passe? En fait, je comprends pas. Tu parles posément et en fait, tu te rends compte que en fait, la personne, elle a des peurs, elle a des gros problèmes de budget. Il y a eu un autre artiste qui est passé avant toi où ça s'est super mal passé. Du coup, il y a un peu toute cette espèce de truc. Et quand t'en parles, eh ben, finalement, ça s'apaise et t'arrives à faire un truc, en fait, puisque chaque personne est différente. C'est juste que, ouais, il faut rester ouvert et compréhensif, quoi.
Et du coup, ça te lance un peu sur tes premiers projets?
Ouais. Littéralement, okay. Ouais. Bah, du coup, ma communauté, genre, j'ai quasiment entre 5 et 10 000 followers. Au Maroc aussi, c'est un petit milieu. Du coup, bah, c'est un milieu...
Et c'était quand, ça?
Ça, c'était il y a 4-5 ans, je dirais.
Ok, oui, parce que depuis, tu te dis sur tes chiffres Insta, mais maintenant, t'as plus de 200 000 abonnés.
Ouais, bah, petit à petit. Donc, ouais. En fait, pareil, du coup, les gens disent « Ah, c'est chouette ce que tu fais, trop bien, ils repostent, ça, c'est trop beau ce que t'as fait. »
Ah,
donc,
ça prend du temps.
Ils commencent à te soutenir aussi, petit à petit. Donc, c'est plus vraiment que le cercle proche. C'est un petit peu le cercle, la deuxième vague, en fait, qui te dit aussi « Ah, nous aussi, on te valide, tu vois. » Et après, les gens commencent à t'envoyer des trucs, genre « Tiens, on a pensé à toi. » Et là, je reçois un pote qui me dit « Il y a l'ex de Caroline Receveur qui cherche une illustratrice pour Wonderty. » Du coup, je lui envoie un message. Et là, bah, pareil, je commence à bosser avec elle. Et là, bah, elle a une énorme communauté. Donc, pareil, bah, en termes de visibilité, etc., bah, pareil, ça met un gros coup de boost. Elle reposte une vidéo de moi. Pareil, gros coup de boost, tu vois. Ou, en fait, c'était au même moment que je faisais une fresque chez Minute Buzz aussi. Pareil, donc deuxième cercle aussi. Le mec me dit « Ah, c'est cool ce que tu fais, j'en ai entendu parler. Ben, viens peindre chez moi. » Et là, je fais un deal un peu intéressant. Je dis « En fait, plutôt que de l'argent, moi, j'aimerais bien donc être payée pour ce que je vais faire, mais OK pour le budget. » Qui n'est pas celui que j'attendais, mais t'as un média qui s'appelle Fresh. Moi, je veux bien une vidéo dans Fresh en échange. Comme ça va me faire de la visibilité. Donc, je ne serais pas payée autant que ce que j'aurais aimé. Mais j'aimerais bien une interview dans Fresh. Interview dans Fresh. Du coup, bah, trop bien, ça me fait connaître et tout par rapport à leur média qui était quand même pas mal suivi. Et bah, Caroline, donc du coup, reposte ma vidéo Fresh, tu vois, que je poste au moment où je commençais à discuter avec eux. Et là, pareil, je prends genre 5 à 10 000 personnes en l'espace d'une nuit. Du coup, pareil, gros coup de boost. Tu vois, donc...
Ouais, en fait, c'est un arbitrage...
C'est un arbitrage, ouais.
Ouais, entre ta visibilité, comment tu te rémunères. Et d'ailleurs, à peu près à quand est-ce que tu peux dire que tu arrives à être autonome financièrement par rapport à tes créations?
Ça, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton train de vie aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ça dépend vachement de ça. Après, ouais, au début, disons que j'étais vraiment sur du train de vie basique. Je faisais du babysitting, je faisais des cours de dessin.
Ouais, pour pouvoir compléter.
Ouais, voilà, ouais. Pour pouvoir compléter, j'avais mon chômage. Mais c'était vraiment galère. C'était plus de Uber, plus de resto. Mais en fait, tout dépend comment tu vois ta vie. Parce que finalement, quand tu travailles, quand t'es salarié, le matin, souvent, tu passes à la boulangerie en courant parce que t'as pas eu le temps de prendre ton petit-déj. Le midi, bah, tu manges dehors ou à la cantine. Donc finalement, c'est un budget. Alors que finalement, quand tu bosses de chez toi, bah, t'as le temps de te faire à manger, tu te fais tes petits trucs. Tu fais que un ou deux repas par jour. Quoi, deux, on va dire. Mais t'as plus cette espèce de 3 à 4 repas par jour parce que t'es fatigué. Tu prends ton petit-déj le matin, ton repas le midi, un encas l'après-midi parce que t'es fatigué, du coup t'as besoin d'un peu de sucre, plus ton repas le soir. Finalement, tu te lèves peut-être un peu plus tard, mais tu fais ta pause-déj quand t'en as besoin, et le soir tu refais ton repas. Donc t'as un peu moins de repas, t'es pas forcément à l'extérieur, donc tu... Moi, dans l'immobilier, j'étais tout le temps à droite à gauche, tu vois, donc quand j'avais faim, je passais à côté d'un resto, il y avait... j'allais pas manger dehors, debout, dans la voiture, un truc froid. Donc finalement, tu te mets au resto, donc c'est toute une partie de frais que t'as plus aussi puisque t'es chez toi. Donc finalement, ça va, tu vois. Donc là-dessus, même en termes de dépenses annexes, le soir, des fois, tu vois une pote, etc. Mais t'es dehors, pareil, au bout d'un verre ou deux, t'as envie de manger. Donc pareil, c'est des frais en plus. Là, finalement, comme t'es chez toi, c'est des choses qui s'anticipent aussi. Du coup, tu peux sortir juste pour un thé, juste pour un petit truc, ou dire à ta pote de passer chez toi. Donc c'est tous ces espèces de frais où tu te retrouves parachuté à droite, à gauche dans Paris, dans des horaires où t'as faim.
Mais ouais, mine de rien, ça fait plusieurs centaines d'euros par mois que tu dépenses plus, quoi.
Ouais, ouais, vraiment. Parce que du coup, t'as ta base, t'es chez toi, t'as ta petite orga, et tu sors quand tu le décides. Donc déjà, tu maîtrises un peu toute cette partie. Donc t'as besoin d'un peu moins là-dessus. Et aussi, bah, moi, c'est toute la partie stress, quoi. Genre les magnétiseurs, le magnésium, tous les compléments alimentaires, en fait, parce que t'es tellement au bout de ta vie, tu veux avoir des beaux cheveux, parce qu'en fait, mais t'es tellement stressé que tu perds tes cheveux, tu... Toute une espèce de qualité de vie, en fait, t'as tous ces frais qui sont relatifs à la qualité de vie, que du coup, t'as plus forcément, parce que t'es chez toi et que t'es posé, en fait. Du coup, t'as plus les frais liés au transport, les Uber, plan galère, parce que t'es à un autre endroit, il faut que tu rentres. Du coup, t'es plus posé. Donc, tout ça, déjà, tu redescends, tu te calmes en termes de rythme. T'as plus les mêmes... En fait, tu revois tes besoins, finalement.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Et finalement, déjà, quand tu dors le matin, à ton rythme, que tu manges des bonnes choses, quand t'as besoin, que tu prépares tes repas. Moi, j'ai jamais trop cuisiné, mais bon, au pire, tu vas t'acheter un avocat chez le primeur, tu te fais une petite salade de pâtes, une petite salade vite fait. Ok, déjà, tu vois, t'as ton café. C'est des petits trucs simples, en fait, mais t'as le temps de prendre ton café le matin, t'es pas rongé par le stress. Tu vois, ou si un matin, t'es un peu malade, tu prends un peu soin de toi, tu te fais une petite infusion, en vrai, ça coûte rien. Tu te poses. Moi, je faisais mon yoga chez moi aussi, tu vois. C'est cool.
Ouais, c'est une vie qui est complètement différente.
C'est suffisant, tu fais ta petite méditation le matin, ton petit yoga, tu manges bien et déjà ta journée elle commence super bien et ça t'a pas coûté grand chose finalement et t'es bien, tu vois, t'as pas besoin d'aller compenser par des verres le soir parce que ta journée a été ignoble, par un magnétiseur parce qu'en fait t'es super stressé, t'as pas besoin tout le temps de sortir, voir des gens, voir des copines parce que, un petit peu parce que t'as le côté où tu te sens seule quand même, mais moi c'était ça, voilà, à un moment j'ai eu besoin de me sociabiliser mais comme je suis bien toute seule, j'ai mon univers, j'ai le temps de lire des bouquins, j'ai le temps de me questionner sur ce que j'aime. Tu peux faire plein d'expos à Paris quand t'es au chômage ou que t'es maison des artistes. T'as accès à toutes les expos gratuitement. Donc, en fait, t'as toutes ces choses auxquelles t'as accès gratuitement et qui te nourrissent énormément, quoi. Donc, au final, tu vois, tu replaces juste le curseur sur ce qui est important pour toi et qui fait que tu te sentes bien. Parce qu'au final, des restos, des cuites, des apéros, ça vient juste cacher un espèce de mal-être. Alors que là, finalement, t'es un peu face à toi-même tous les jours et je trouve que ouais, c'est pas mal.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens spécifiquement qui veulent se lancer dans un milieu artistique et qui, un peu comme toi, ont ce truc de l'inconnu, de tu peux pas tout prévoir à l'avance?
Bah, je dirais déjà de s'entourer de son cercle proche, les gens qui sont vraiment soutenants et encourageants, de pas trop écouter les autres parce qu'en fait, chaque parcours est différent. Moi, je fais les trucs à ma sauce, mais un autre artiste ferait les choses d'une autre manière, en fait. Donc vraiment, il n'y a pas de chemin prédéfini. C'est d'aller peut-être chercher en soi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de honte, en fait, à ne pas aimer des choses et en aimer d'autres, en fait. Au contraire, concentre-toi sur ce que t'aimes et essaye de faire de plus en plus ce que t'aimes et de moins en moins ce que t'aimes pas, quoi, déjà. D'écouter les gens qui te soutiennent vraiment avant tout. Pas trop écouter les autres. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un à qui tu plairas pas. C'est un peu la règle, quoi. Et je dirais aussi de voyager, de parler, de jamais trop se renfermer, d'essayer de quitter l'inertie au maximum pour être constamment dans un mouvement, même si des fois tu vas faire un truc, tu sais pas trop pourquoi en fait, mais tu parles à quelqu'un qui connaît quelqu'un, en fait vraiment de quitter l'inertie, même si sur le moment tu vois pas un petit peu l'aboutissement de tout ça, pour te mettre en mouvement. De quitter le jugement, en fait, te dire voilà, chaque personne a quelque chose à m'apporter. Peut-être que ce sera une idée, peut-être que ce sera une musique qui va être dans ma prochaine playlist et que cette musique, elle va me porter tellement loin que je vais faire une super créa dessus. En fait, je pense que tous les rapports et les échanges que tu as avec les gens sont riches. Moi, c'est vraiment aussi l'humain au centre. De s'ouvrir, d'être dans le partage. Tu vois, moi, je me suis vraiment questionnée sur le sens de ma vie, sur ce que j'avais envie de donner. Donc, j'ai fait beaucoup de fresques dans des orphelinats, dans des assos, dans des hôpitaux, parce que j'avais vraiment besoin d'offrir quelque chose aussi, tu vois, avant forcément de demander une validation ou... Tu vois, j'avais pas envie forcément qu'on me regarde, j'avais déjà envie de donner, tu vois, et aujourd'hui peut-être qu'on me regarde parce que je donne ou peu importe en fait, mais ce que je dis, genre j'ai des potes à moi qui me disent « Ouais, mais moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être connue. » Ouais, mais en fait, avant d'être connue, qu'est-ce que t'as donné aux gens? Tu vois, être connue pour être connue, c'est de l'ego. T'es connue, entre guillemets, si tu le mérites ou si ce que tu fais touche les gens, mais pour que ça touche les gens, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu sortes quelque chose de ton cœur, que tu aies quelque chose à dire, qu'il soit honnête et sensé. Si tu viens juste là pour gagner de l'argent et qu'on te regarde, finalement, des gens à regarder, il y en a tellement. Il faut que les gens ils sentent une espèce d'authenticité, un truc sincère qui émane de toi, quelque chose de différent, tu vois. Parce que si c'est juste faire du contenu pour faire du contenu, histoire de remplir de l'espace, il y en a déjà tellement qui le font, c'est saturé, quoi. Donc, je dirais vraiment sortir un truc sincère, honnête, qui sorte de ton cœur... Peut-être même un truc bizarre, mais peu importe, en fait, quelque chose qui te ressemble à 2000% et qui soit ta manière à toi de t'exprimer, quoi.
Et est-ce qu'il y a des parcours des gens qui t'inspirent ?
Des parcours des gens qui m'inspirent, énormément. Moi, au plus ça va aussi, au plus je m'inspire de femmes qui m'entourent. Parce que c'est vrai qu'en tant que nana, moi, en fait, dans ma famille, tous les gens qui réussissaient, c'était surtout des mecs. Et en tant que figure féminine de réussite, j'en avais pas vraiment, quoi. Même en tant que femme, en fait, il y a un moment où on te dit, du coup, tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas avoir des enfants. Même mes copines qui ont des enfants, elles ont du mal à concilier leur vie de femme. Et t'es là, waouh. Donc, en fait, après, très rapidement, t'es aussi rattrapée par ta vie de femme, le fait que tu sois jolie, qu'on te choisisse, c'est ce qu'on attend de toi un petit peu. Et je dirais, c'est un peu de s'extirper de tout ça. Pour construire ton chemin et devenir inspirante en tant que femme. Et donc, je m'inspire beaucoup de femmes comme Célia, mon amie qui fait des vêtements, avec qui on refait une collab là bientôt. Parce que pareil, elle est très indépendante, elle voyage énormément. C'est vraiment une entrepreneuse à part entière, mais avec des problématiques de femmes qui ne sont pas ceux des hommes, en fait. Donc finalement, le problème, c'est qu'on est aussi dans un monde où tu as des hommes qui réussissent avec des problématiques qui sont des problématiques d'hommes. Sauf qu'on n'a pas la même sensibilité. Dans les manières de négocier, on est toujours plus douce, on a beaucoup d'intuitions qu'ils n'ont pas forcément. C'est différent. Du coup, moi, me positionner comme un requin qui tape du poing sur la table, qui hurle, qui drive des gens, en fait, les modèles de réussite, ils sont très masculins et d'arriver à se les réapproprier en tant qu'homme, c'est pas évident parce que, comme tu disais, je n'ai pas vraiment de modèle. Mais du coup, j'ai des amies entrepreneuses qui mènent leur vie de femme en parallèle de leur vie d'entrepreneuse. Et c'est d'elles dont je m'inspire. Tu vois, Célia, par exemple, elle voyage de partout dans le monde. Elle arrive du coup à avoir son histoire d'amour en parallèle parce que là, elle a un copain depuis quelques temps. Elle arrive à rester hyper créative aussi, à prendre soin de sa beauté parce que du coup, elle a 40 ans aussi, tu vois. Alors que les hommes, c'est pas forcément des problématiques qu'ils ont. Nous, les femmes, on attend nous aussi qu'on soit jolies, même visuellement. Moi, je suis dans la création de contenu et tout, et j'ai plus 20 ans non plus. Donc, une femme, c'est ta beauté, c'est tes cheveux, c'est tes tenues. T'as un côté un peu frivole, un peu plus coloré qu'un mec n'aurait pas forcément, tu vois.
T'as cette impression dans le propre à ton milieu ou de manière générale?
De manière générale. Et dans mon milieu, en fait, comme je suis dans un cercle très artistique, très coloré, disons que je suis un peu l'incarnation de mes œuvres aussi, tu vois. Donc, j'incarne aussi mon univers, tu vois, quelque part. Et du coup, ça, c'est comment prendre soin de moi pour continuer aussi à incarner mon personnage d'artiste. Et disons que j'ai pas forcément d'exemple, tu vois. Tu vois, en fait, c'est vrai que même les femmes qu'on voit, même dans le cinéma, c'est des actrices qui sont maintenant de plus en plus âgées, mais c'est souvent des femmes jeunes et très belles. Mais du coup, j'ai aussi ce truc de... moi, je vais vieillir avec mon art, avec mes créations, etc. Et j'ai envie de continuer à me montrer, d'être à l'aise avec mon image, de continuer à fleurir, en fait, aussi dans les années qui arrivent, en fait. Tu vois, c'est plus... j'ai tout donné comme les mannequins entre 20 et 30 ans, et après, finalement, je montre plus mon visage. Pas forcément, tu vois. J'ai envie de continuer à me montrer différemment. Et du coup, de voir mes amis, Célia, qui est un peu plus âgée que moi, qui le fait super bien. Je trouve que c'est super beau, c'est super inspirant. Ma copine Liliana aussi, qui est la chanteuse du groupe Bombay Stéréo, pareil, elle a 45 ans. Elle fleurit jour après jour dans ses créations, dans sa manière de se montrer, dans son discours. Tu vois, en fait, c'est des nouveaux chemins qui s'ouvrent et je trouve que c'est super intéressant de les voir continuer à s'épanouir, en fait, d'année en année. C'est extrêmement beau parce qu'elle développe sa sensibilité, son univers, sa créativité et même en vieillissant, tu vois. Je trouve que c'est vraiment beau parce qu'elle a atteint une certaine maturité, etc. Mais c'est des choses que, il y a quelques années, que tu voyais pas forcément ou qui n'étaient pas forcément valorisées non plus.
Non, hyper, hyper intéressant. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Je dirais prenez soin de vous déjà avant tout, à travers du yoga, de la méditation, vraiment des choses qui font du bien pour se reconnecter à ce qu'on veut vraiment. Je pense que la base, ça part de soi. C'est-à-dire déjà, il faut savoir ce qu'on a envie, il faut s'aimer un minimum, avoir confiance en soi un minimum. Donc déjà, je dirais prendre soin de soi, se chérir avant tout. Au-delà de ça, déjà s'entourer des personnes qui vont vous pousser vers ça aussi, vous encourager, vous aimer. Et après, il faut du courage, énormément de travail aussi. Parce que pour moi, c'est pas de la chance, c'est juste des heures de travail, de préparation. C'est pas une recette magique, en fait. C'est des heures d'échange, de remise en question, des lectures, des voyages, des rencontres. C'est énormément de travail, de la ténacité du coup. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, après le pire, tu as souvent le meilleur. En fait, et puis tu auras le pire à nouveau. Donc je dirais, en fait, c'est de la ténacité et une vision un peu à moyen long terme. C'est voilà ce qui m'anime, c'est vraiment ma raison de vivre et c'est comme ça que je vois ma vie. Donc je dirais s'accrocher à ça quoi qu'il arrive.
Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, donc je sais que tu es très active sur ton compte Insta, Léona Rose, je crois que c'est simplement
c'est ça.
Tu as un site internet aussi, on peut voir un peu plus...
Mon site internet, c'est surtout mon shop pour le moment.
Ouais, ok.
C'est leonarose.fr, voilà, mais on le retrouve dans ma bio Insta.
Et c'est tes médias principaux,
Suivre. Sinon, j'ai une marque de déco que j'ai lancée qui s'appelle Guru Del Sol.
Ok.
Donc c'est gurudelsol.com, donc G-U-R-U.
Ok.
Del Sol. Je commence à faire des petits drops de céramique. J'ai lancé une ligne de papier peint. Donc là, il va y avoir un deuxième modèle. Et ça, c'est vraiment pour la partie décoration d'intérieur où c'est ma propre DA où je m'éclate. Voilà. Donc Léona Rose, c'est pour la partie print et art, tableau. Et Guru Del Sol, c'est vraiment la marque déco que je vais étoffer dans les mois qui viennent.
Super. On va suivre ça. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.